Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc ?
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher devant le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
J'ai eu toute une période de ma vie où les pad thaï étaient le plat de la ramasse. Facile à manger, avec de la saveur, juste ce qu'il fallait d'acidité, un tout petit peu de piquant, ces nouilles de riz thaï étaient mes meilleures copines du dimanche. J'avais même une théorie sur le fait que les pâtes thaï, c'était des pâtes au ketchup VIP. Alors attendez, ne coupez pas maintenant. Laissez-moi juste détailler avant de jeter vos écouteurs violemment contre le mur. En fait, je sais pas pourquoi, mais la sauce tamarin me rappelait une sorte de super ketchup, mais évidemment bien meilleur. Et puis tous les petits légumes qui allaient avec en faisaient un truc de plus, comme quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te fait un massage crânien en plus du shampoing. Alors maintenant, en vous le disant, je crois que c'est juste qu'en fait, je comparais ma comfort food d'enfant avec ma comfort food d'adulte. Enfin bref, c'est donc sans surprise que l'épisode du jour parle des pâtes thaï. Et vous allez voir qu'un épisode entier, c'est largement mérité. Déjà parce qu'en le préparant, je me suis aperçu que leur histoire était vraiment particulière. En fait, c'est en gros un plat national poussé par un dictateur qui voulait unir le pays autour d'une culture thaï. Et ça, on en parlera avec Catherine Vanès depuis la Thaïlande, rédactrice en chef adjointe du magazine Latitude, un magazine pour les expatriés.
Il faut inciter en fait les gens à manger autre chose que du riz, d'où les nouilles. Et donc en prenant ces recettes, alors certains remontent le pad thaï au royaume d'Ayutthaya en disant que c'est des influences vietnamiennes, d'autres c'est influence chinoise, parce que les nouilles à la base c'est pas tellement thaï à cette époque-là. Et donc, voilà, il y a une recette un peu qui est créée, qui est imprimée et qui est diffusée un peu partout.
Mais d'abord, j'ai invité Alexandre Souksavan, qui avec ses frères a repris Lao Siam, un restaurant que ses parents ont ouvert à Belleville il y a une trentaine d'années, enseigne culte de ce quartier de Paris, habité par une grande communauté asiatique et qui regorge d'adresses de cantines chinoises et autres restaurants de nouilles. Et Lao Siam tire son épingle du jeu en proposant une cuisine traditionnelle thaï sincère et savoureuse. Avec Alexandre, on a parlé de succession, de fidélité à la cuisine du pays, des clients relous qui veulent à tout prix changer les recettes et évidemment de pad thaï.
On a beaucoup de gens qui disent qu'on est une institution, mais nous en fait on se voit juste comme un resto qui propose des trucs qu'on espère qu'ils vont plaire au plus grand nombre de personnes. Et c'est aussi pour faire découvrir aux gens notre cuisine, qu'est-ce qu'on mange. Et du coup, parfois, on a aussi des partis pris. C'est vraiment parce qu'on veut faire découvrir aux gens la cuisine telle qu'elle est. Et non pas en trafiquant un peu ou en la modifiant de trop pour que ce soit vraiment trop dénaturé.
C'est drôle, ça c'est quoi les partis pris par exemple que vous avez ?
Le parti pris, par exemple, ça va être au niveau du piment. On a quand même réduit vraiment au minimum, minimum, minimum. Parfois, il y a des. Un exemple, c'est par exemple pour tout ce qui est sauté au basilic ou bien tout ce qui est curry rouge, il y a des clients qui nous demandent en fait de le faire moins piquant. On refuse et c'est déjà arrivé qu'on se prenne la tête avec des gens par rapport à ça et qui nous disent mais ouais, enfin je comprends pas, pourquoi vous faites pas, et on leur dit que sans épices en fait le plat il sert plus à rien en fait. Enfin, il y a un parallèle que je fais avec des amis restaurateurs, c'est que parfois tu vas aller dans un restaurant, on va dire un restaurant type français ou bistronomie ou autre, ou un italien. Tu vas jamais leur dire ouais, enfin mettez pas ça ou mettez pas ça. Enfin moi personnellement j'ai jamais vu ça en fait, de gens qui disent ouais, enfin à moins que t'aies une allergie là encore je veux bien, mais on va pas te dire ouais, enfin de mettre je sais pas moi moins, tu fais une blanquette, on va te dire ouais mets moins de crème s'il te plaît, et le mec il va te dire bah non, enfin mon plat il est comme ça, il sort comme ça et voilà. Si après t'aimes pas, je suis désolé si t'aimes pas.
Oui.
Après ça reste que de la cuisine, mais quand tu nous dis, quand un client nous dit bah ouais, enfin je veux ça avec, je veux que vous le coupiez avec du lait de coco.
Ah carrément, ok d'accord. C'est vraiment si précis que ça. Ah oui c'est.
En fait, il nous demande de le faire
moins piquant. Ouais.
On leur dit que c'est pas possible.
Surtout que c'est pas si piquant, moi je suis venu chez vous, j'ai pas été particulièrement marqué par
non,
le
c'est
par
pas
le piquant,
c'est pas très piquant, mais après tu sais le piment c'est relatif à chacun. Il y en a qui vont, enfin c'est comme quand un client me dit ça pique, je leur dis bah non, concrètement, ça pique pas beaucoup. Mais après, si vous êtes vraiment intolérant à ça,
mangez pas de cuisine épicée. Enfin, il y a des plats à la carte qui sont pas particulièrement épicés.
Mais il y a des gens qui s'obstinent à vouloir prendre le truc, mais en voulant le modifier, chose qui n'est pas possible. D'où en fait, le manque de concessions qu'on faisait, enfin qu'on fait.
Oui.
Avant, à l'époque de mes parents, il me semble que parfois il avait fait. Mais en fait, avec mes frères, avec le temps, on s'est dit non. Le plat, il sort tel quel. Si tu veux autre chose, tu prends autre chose qui pique pas. Mais on arrête de sortir des plats qu'on veut pas, en fait, simplement.
Pour revenir sur le sujet des pataïs, vous en avez deux à la carte.
Ouais.
Porc et crevettes. Si c'est ça. On a l'habitude. Enfin, moi, j'avais beaucoup plus l'habitude de les voir au poulet. C'est quoi la différence en fait? Est-ce que c'est quelque chose de régional? Est-ce que c'est un truc?
Non, c'est juste qu'on trouve ça, meilleur au porc en fait. Le poulet en fait, le problème du poulet c'est que du coup tu dois utiliser du blanc de poulet et on trouve juste que le blanc de poulet c'est pas très goûtu quoi. Quand tu manges un filet de poulet, même si j'aime bien ça, hein, c'est pas très bon quoi. Enfin, ça n'a pas trop de goût.
Oui, c'est plus plat que une bonne pièce de porc.
Ouais, nous on trouve. Après, on en fait aussi au poulet parfois par rapport aux gens qui le demandent, parce que là, ça va encore. Enfin, on trouve que c'est encore correct au niveau du goût. Et aux crevettes, c'est pareil par rapport aux gens qui nous demandaient. Mais en fait, à la base, en Thaïlande, tu manges souvent le pad thaï soit aux crevettes, soit au porc. Mais la différence en fait en Thaïlande, c'est que ils ajoutent aussi des petits cubes de tofu frit. Mm-hmm. Mais ça après c'est les recettes de chacun.
C'est quoi? Qu'est-ce qui fait un bon pad thaï, tu penses?
Alors un bon pad thaï déjà pour moi c'est la base. C'est la base de la sauce qui est une sauce tamarin. Et manger un bon pad thaï, nous on trouve que c'est pas forcément évident même en Thaïlande. Hein. Là, je suis retourné en Thaïlande il y a un an et j'avais vu des inepties totales. Des gens qui faisaient des pad thaï, mais avec de la sauce sriracha, avec de la sauce soja, parce qu'ils s'en fichent en fait de sortir le plat tel quel. Parce que leurs clients, ce sont des touristes qui font pas forcément attention. Mais j'ai vu ça une fois, deux fois, trois fois. J'ai demandé à ma famille, mais
qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et là, du coup, mon cousin, il regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, mais le pâté, il le fait avec la sauce sriracha. Il me dit, tu sais, le truc, c'est que, ils vendent des trucs comme ça à la va-vite pour les gens. C'est pas bon, mais en fait, les gens, de toute façon, c'est du one shot. Donc,
oui, c'est des touristes qui reviennent potentiellement pas.
Mais je trouvais ça dommage en fait, de faire en fait un plat qui soit pas du tout, comment dire, représentatif de la vraie cuisine thaïlandaise, même si ça veut rien dire aussi, vraie cuisine thaïlandaise. Déjà, c'est la sauce, qui est une sauce tamarin. Et après, tu as aussi la cuisson au wok qui est très importante parce que en fait, le wok avec le wok, tu peux cuisiner en fait, de manière avec un feu très fort pendant, du coup, pour te saisir rapidement et pour en fait, avoir une bonne consistance au niveau des pâtes de riz et en fait, d'avoir un bon équilibre global. Quoi.
Donc, c'est des nouilles de riz?
C'est des pâtes de riz, des pâtes de riz sautées avec une sauce tamarin, avec donc un légume qui s'appelle. Un légume vert qui s'appelle le kuchai, qui s'apparente un peu à la ciboulette, des cacahuètes, du radis fermenté qui va être sauté, du soja, de l'omelette et une viande.
Et le citron vert?
Le citron vert, c'est à la fin.
C'est à la fin, oui. Ouais. Parce que sinon, tu mets tout le reste à peu près en même temps dans ton wok. Il faut quand même bien savoir quand mettre quoi.
Faut que tu gères les cuissons de chaque produit. Donc, généralement, tu commences par mettre la sauce. Tu descends les pâtes de riz, et, en fait, jusqu'à temps qu'elles soient molles, qu'elles cuisent, comme les pâtes classiques. Suite à quoi, tu rajoutes le kuchai. Et après, tu rajoutes aussi... L'omelette et la viande, c'est quasiment la fin. Généralement, tu la fais cuire un peu avant. Enfin, tu la fais sauter avant pour, en fait, l'incorporer à. Donc, et aussi le soja. Enfin, le soja et les cacahuètes. Les cacahuètes, ça vient vraiment à la fin, parce que sinon, en fait, c'est imbibé de sauce. Pareil pour le soja.
Un petit peu assez croustillant.
Exactement.
Et est-ce que, comme tu sais, au port d'Italie, avec l'histoire de la crème et les carbonara qui les fait hurler, est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est pareil.
Ouais, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un élément qui te fait hurler, qu'on met dans les pâtes thaï?
La sauce sriracha, par exemple, ça, c'est un truc... Ça m'arrive tous les jours, que des gens me disent « Ouais, je veux de la sauce piment avec ». La sauce piment, mais pourquoi faire? Vous voulez que ça pique? Bon, si vous voulez que ça pique, vous mettez du piment séché. Et les gens ne comprennent pas, ils me disent, mais.
Oui, parce que la sauce sriracha, elle a un goût en plus, elle ne fait pas que piquer.
C'est ça, c'est qu'en fait, parfois, on a quand même, en fait, ce devoir de pédagogie, en fait, d'apprendre, d'expliquer aux gens, pour entre guillemets leur apprendre, même si j'ai de leçons à donner à personne, mais enfin, je leur explique que la sauce sriracha, ça va changer tout le goût du plat. Et il y en a qui persistent, généralement les gens comprennent, ils me disent dans ce cas-là je veux le manger tel quel, ou avec du piment séché, du coup là vous le mangez comme ça devrait l'être. Mais t'as la sriracha, t'as la sauce soja, pareil, la sauce soja c'est un... ça aussi, on est un peu extrême par rapport à ça. J'ai ma copine qui dit qu'on est des ayatollahs de la sauce soja, mais pareil, en fait, ce sont des mauvaises habitudes que parfois les gens ont, de mettre de la sauce soja sur un pad thaï, ça n'a pas de sens. Et c'est comme si tu manges un bourguignon et tu mets du ketchup à l'intérieur. Même si t'aimes bien, on va te dire le fais pas. Ou si tu veux le faire, tu le fais chez toi, mais chez nous, tu le feras pas.
Dans l'idée qu'un restaurant comme le vôtre soit un peu un transmetteur de culture, en fait, et il faut garder quand même quelques règles, quelques cadres. Comme tu dis, tu peux faire chez toi, vas-y, fais ce que tu veux
chez toi.
Mais chez vous, c'est vrai que vous êtes garant quelque part de l'image de la cuisine thaïlandaise, en France en tout cas.
C'est un peu ça, en fait. On veut vraiment transmettre, en fait, aux gens le goût du plat qu'on veut donner. Un truc qui, pour moi, en fait, est un peu symptomatique, en fait, des restaurants asiatiques, c'est que généralement, à l'époque de mes parents, quand quelqu'un, en fait, demande un truc, on disait toujours oui à tout. Tu veux ça, oui. Enfin, même si c'est pas logique, même si c'est pas bon ou tout, tu dis oui parce qu'en fait, tu réponds à la demande du client. Sauf qu'en fait, à un moment, vas-y, c'est bon, quoi. Faut pas faire n'importe quoi non plus avec la cuisine. Et comme tu parlais, en fait, de montrer, en fait, d'être un peu, entre guillemets, l'ambassadeur de la cuisine, du coup, en disant non, en fait, nous, on estime qu'on fait notre devoir de vraiment faire goûter aux gens le plat que nous, on estime être bon par rapport à la cuisine.
Oui, c'est comme si tu montrais une photo d'un temple en Thaïlande et que tu avais enlevé un endroit pour faire croire. Enfin, t'as envie quand même que la photo soit réaliste par rapport à ce qui est vraiment là-bas, quoi.
Oui, c'est ça. Si tu adaptes le truc, dans ce cas-là, t'appelles ça, tu le revisites. Là, ok, là, je veux bien.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient de la sauce tomate dans certains endroits de Thaïlande, dans les pad thaï. T'as vu ça, toi, ou
Ouais. La sauce tomate, ça c'est le truc, c'est que quand tu m'en passes, ça me fait sourire parce que du coup, ça me fait penser à un plat que j'aime beaucoup et en fait, que eux appellent un sauté de macaroni. Grosso modo, ce sont des pâtes avec de la sauce tomate, beaucoup de sucre, un peu de viande.
C'est inspiration italienne.
Ouais, ouais. C'est un peu les pâtes italiennes thaï, quoi.
Ouais.
Donc c'est un peu le pâte thaï italien, si tu veux. Ça, pareil, ça, tu montres ça à un Italien, il t'égorge, je pense. Parce que c'est... moi, j'adore, hein, mais je dirais jamais... Enfin, j'appellerais jamais ça des pastas ou autre, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est juste une combinaison, en fait. Enfin, un truc qu'ils aiment bien, et ils aboutissent à un truc qui est marrant, mais généralement, ça plaît beaucoup aux enfants parce que c'est simple à manger. En termes de goût, c'est pas compliqué. Et donc, du coup, peut-être que pour les pâtes thaï, peut-être que parfois il y a des gens qui ont pu prendre la sauce tomate parce que c'est plus facile. Et parce qu'en fait, la sauce tomate a plus ou moins les mêmes propriétés gustatives que de la sauce tamarin, à savoir être sucrée, être un peu acide et être un peu salée avec un peu plus de sel, quoi. Peut-être que c'est pour ça. Et aussi, pour être franc avec toi, par facilité, parce que la sauce tamarin, il faut la faire. Et quand tu fais quelque chose, de bout en bout, ça te prend du temps.
Ouais.
Alors que la sauce tomate, tu vas l'acheter, tu l'utilises et hop, c'est fait, quoi.
Toi, t'aimes bien les pad thaï ?
Franchement, c'est
vraiment,
bon,
tu peux dire
c'est
non.
Bon, mais j'en ai assez. Ouais. Au restaurant, sincèrement, par jour, je sais pas combien on en sert, il y a peut-être 40, 50, 60. Tu vois ça toute la journée, t'as pas envie.
D'ailleurs, c'est drôle parce que à la carte de votre restaurant, elle est, c'est vraiment à la fin. Enfin, vous l'avez pas particulièrement mis en avant et tout. Mmh. C'est un plat comme un autre. Et j'ai trouvé ça, ça m'a pas choqué. Hein, mais j'étais là genre, ah, c'est marrant. On dirait pas. C'est un parti pris aussi, ça de.
C'est juste c'est juste les vestiges du menu que mes parents avaient fait auparavant. Et en fait, on l'a remanié avec le temps. En fait, à l'époque, au tout début, au resto, on faisait de la cuisine chinoise, vietnamienne et thaïlandaise laotienne. Avec le temps, on a resserré pour vraiment se focaliser sur la cuisine thaïlandaise et laotienne. Et après, on a quand même encore quelques plats qui sont chinois et vietnamiens, mais très peu. Et en fait, il y a quelques années, quand mes parents en fait, voulaient qu'on refasse le menu, enfin la présentation, et moi je voulais aussi qu'on corrige les fautes d'orthographe, parce qu'il y en avait plein, mais c'est parce que mes parents, ils avaient fait des fautes, et eux trouvaient ça même marrant et ils s'en foutaient en fait. ils me disaient non, mais on s'en fout, corrige pas, comme ça au moins on a vraiment l'air de blédard, quoi. et sauf que moi à l'époque, j'étais encore à l'école, j'étais au collège, je crois, et j'étais un peu
embarrassé avec ça.
Non, enfin peut-être, ouais, mais j'étais plus dur en fait par rapport à l'orthographe, parce que j'estimais que quand c'est écrit comme ça, ça doit être écrit comme ça, point barre. En fait, au final, je crois que je suis un peu streamé sur tous les bords.
C'est comme avec les pâtes.
C'est comme pour les pâtes thaï. Et du coup, on corrige le menu et en fait, vient le moment où il fallait refaire la mise en page. Et en fait, ça allait dans tous les sens, tous les pains dans tous les sens. Et je trouvais qu'il aurait peut-être fallu un peu mieux organiser les plats, parce qu'il y avait un riz là, il y avait un plat là, après en dessous il y avait encore un riz, il y avait aucune cohérence en fait, je trouvais. Donc du coup, avec le temps, on a fini par resserrer en fait, avec une plus ou moins une logique par rapport au plat. Et donc en fait, le pad thaï est avec tout ce qui est accompagnement, riz, tout ce qui est plat complet en fait. Donc du coup, c'est à la fin. Après, qu'on l'ait mis à la fin, on ne voulait pas du tout que les gens ne le voient pas ou quoi. On espère quand même que les gens, même si le menu est super long, qu'ils le feuillettent et qu'ils regardent quand même tout ce qu'il y a. Mais la raison pour laquelle on vend le plus de pad thaï, c'est parce que les gens connaissent quand même souvent ça.
Oui, c'était une des questions que je voulais te poser, parce que j'y ai pensé en fait, qu'en mangeant, je suis venu ce week-end à Lao Siam. Et en fait, pour une fois, je fais un truc que je fais... Enfin, que j'essaie de faire de plus en plus, mais j'ai vraiment pris des trucs un peu, pas au hasard, mais des trucs que j'aurais jamais pris avant. J'ai pris des moules et des cuisses de grenouille, ça je le prends plus. Mais les moules, j'étais genre hyper surpris, que c'était hyper bon. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que je suis trop bête d'aller tout le temps prendre des nems et des pad thaï et à la limite en buff lock là quand j'ai dans un chinois. Et je me suis dit, est-ce que oui, ça, je me suis dit, il faut que je pose la question, mais comme tu dis, en fait, t'as un peu répondu avant, tu sers 60 pad thaï par service, donc ça veut bien dire que les gens, en fait, doivent aller vers les classiques.
C'est ça.
Et peu sont peu ambitieux, on va dire, sur ce qu'ils choisissent.
T'as raison, parce que je pense qu'il y a deux points par rapport à ce que tu dis. Ça peut être parfois un peu de, comment dire, un manque d'envie, en fait, un manque de curiosité parfois. Et parfois aussi, tu veux choisir en fait, la sécurité. Et tu peux aussi penser que le pad thaï peut être l'étalon pour jauger en fait, la cuisine. C'est comme quand tu vas dans un restaurant français, comme quand tu allais dans un restaurant français auparavant et que tu manges une soupe à l'oignon, tu savais directement si tu allais bien manger ou pas. Donc là, c'est comme une margarita chez un italien pour une pizza, ou bien des pâtes classiques.
C'est un bon baromètre.
Voilà, c'est un bon baromètre. Après, le truc, c'est que du coup, quand tu vends, quand t'en vends plein, il y a des tables. Là encore, ce midi, il y avait une table de 6, il y avait 4 pad thaï sur la table. Et parfois, on leur dit, mais vous voulez pas goûter un peu autre chose, prendre un pad thaï et après partager les choses, parce que ça c'est un autre volet en fait, fin de la cuisine. Mais En fait, nous, en Asie, on partage souvent les plats qu'il y a sur la table. Du coup, ça te permet de goûter à pas mal de choses, d'avoir un spectre assez large de la cuisine. Et mais là, enfin, on s'éloigne du point. Mais par rapport au manque d'ambition, parfois, les gens ont juste pas envie, en fait, aussi, de voir autre chose. Et un truc qui est vrai aussi, c'est que parfois, les gens, tu sais, moi, j'adore manger, je pense que toi aussi. Les gens ne sont pas forcément fans de nourriture. J'ai des potes qui sont comme ça. Parfois, tu leur demandes, t'as mangé quoi ça? Ils vont te dire, j'ai mangé une pâte avec, des pâtes avec, avec du ketchup et avec une escalope, juste cuite, quoi.
Ouais.
Mais du coup, et eux me disent, que pour en fait, manger, ce n'est pas un plaisir, mais c'est juste c'est un besoin.
Un besoin vital, j'ai des potes qui
sont comme ça. Et donc, parfois, les gens, tu leur dis, vous ne voulez pas prendre ça? Ah non.
Oui, les pâtes thaïs, c'est rassurant, ils connaissent et tout.
Et d'ailleurs, c'est rassurant.
Je me demandais, qu'est-ce que tu conseillerais alors dans la suite de ça? Tu dirais les 2-3 trucs à ta carte ou à d'autres cartes en général de Thaïlandais qui sont peu connus et qui mériteraient d'être connus?
C'est difficile à répondre par rapport aux autres parce que la cuisine thaï est ultra, ultra large. C'est une cuisine qui est... T'as plein de plats qui sont constamment créés. T'as parfois des variantes du même plat avec différentes choses qui vont du coup aboutir à un nouveau plat. Donc en fait, la carte, elle est infinie. Mais si on parle de chez moi, moi je conseillerais de prendre la salade de riz grillé aux herbes et au saumon en entrée, la salade douce. Sinon après en plat moi que j'adore c'est il y a le liseron d'eau.
C'est quoi?
Le liseron d'eau c'est un légume vert un peu croquant, légèrement sucré qu'on va faire sauter avec des haricots de soja fermenté, avec de l'ail, avec un peu de piment et avec une sauce. C'est très bon, ça j'adore. Les travers de porc sur arachide à griller, le mounam tok, ça dépend en fait. Il y a plein de plats que je recommanderais, mais c'est toujours selon ce que tu aimes manger.
Merci à Alexandre d'être venu nous parler. Vous le retrouvez chez Lao Siam à Paris. Et maintenant, remontons l'origine de ce plat car elle est tout à fait intéressante. Les pâtes thaïs sont un plat un peu créé de toutes pièces, pour caricaturer l'histoire, proposé par Pibun, un dictateur qui gouvernait le pays au début du XXe siècle et qui, en prenant tout un tas de mesures pour créer une identité nationale thaï, a proposé les pâtes thaïs comme plat national. Et pour comprendre et en savoir plus, j'en ai parlé avec Catherine Vanesse depuis la Thaïlande.
C'est très difficile d'en trouver un bon et je suis de plus en plus exigeante. Et en fait, c'est par rapport au reste de la cuisine, c'est banal.
Oui. Et c'est dur d'en trouver un bon, même en Thaïlande.
Oui. C'est qu'il y a tellement de... Chacun va un peu adapter la recette. Mmh. Généralement, les meilleurs, c'est dans la rue, dans les petits vendeurs de rue. Dans les restos, ils ne savent pas le faire. C'est un peu catégorique, mais c'est presque ça.
Oui. Donc c'est vraiment déjà le conseil serait plutôt d'aller dans des trucs de rue et d'essayer d'en trouver un bon, de demander aux locaux lesquels sont leurs favoris.
Oui, en fait il faut ça se voit s'il y a du monde ou pas. En fait l'idéal c'est vraiment d'avoir un vendeur qui ne fait que du pad thaï.
Ok.
Parce que s'il ne fait que ça, s'il est pas bon, il survit pas. Et c'est là où je veux dire dans les restos où souvent on en trouve pas, c'est plus difficile d'en trouver un bon, c'est parce qu'ils le mettent sur leur menu, parce que surtout dans les restaurants qui accueillent des étrangers. Beaucoup d'étrangers veulent ce plat-là. Donc ils le mettent, mais ce n'est pas du tout une spécialité. Tandis qu'un vendeur de rue qui ne fait que ça, en général, il est bon. Donc, c'est un peu le conseil à donner, c'est de chercher un vendeur qui ne propose rien d'autre sur son menu.
Oui, parce que lui, au moins, il fait ça pour les locaux et pas forcément pour attirer les touristes.
Oui, mais même si son business n'est basé que sur un seul plat, il doit être bon. Parce que même les locaux, si une adresse n'est pas bonne, il n'y a personne qui y va. Hein.
Alors, je voulais parler de l'histoire des pâtes thaï, parce que c'est vraiment une histoire qui est assez intéressante et qu'on ne connaît pas forcément ici en France. Et c'est une raison assez étonnante, en fait. Et pour en parler, il faudrait d'abord faire un peu d'histoire du pays, de la Thaïlande. Ça arrive à peu près avec la dictature de 1938, c'est ça?
Oui.
Parce que avant, c'est comment la Thaïlande, avant 1938?
Alors, en fait, très important à savoir. Donc, la Thaïlande n'a jamais été colonisée. Mmh. Mais déjà, en fait, à la fin du 19e siècle, à l'époque vers 1880-1890, En fait, la France avait des vues sur la Thaïlande. Et c'est finalement à force de négociations, donc il y a eu des concessions qui ont été faites, et c'est comme ça que la France s'est retrouvée avec des territoires appartenant anciennement à la Thaïlande, mais donc territoire cambodgien et laotien. Mmh. Et en fait, c'est le sentiment, un peu le nationalisme, si on veut, vient de cette époque. Mais sinon, en fait, dans l'histoire, donc jusqu'en 1932, la Thaïlande est une monarchie absolue. En 1932, il y a un premier, c'est le premier coup d'État, si on veut, il y en aura 18 autres après, jusqu'à là maintenant. Mmh. Donc 1932, coup d'État pour abolir la monarchie absolue et passer à une monarchie constitutionnelle. Donc c'est à ce moment-là qu'entre autres le général Pibun, qui sera premier ministre en 1938 et donc dictateur militaire, parce qu'il y aura de nouveau un coup d'État en 1938, décidera un peu de créer vraiment ce qu'on appelle l'identité nationale. Donc, il va mettre en fait en place plusieurs réformes pour créer cette identité. Donc, ça va déjà du changement de nom, parce que c'est environ en 1940 que donc avant on appelait ça le Royaume du Siam, et sous Pibun, on passe du Royaume du Siam à Prathet Thai ou Thaïlande, qui veut dire le pays des Thaïs libres. Mmh. Et avec ça vient également donc, alors ça c'est souvent plus anecdotique. Ça n'apparaît pas, c'est pas étudié vraiment dans les livres d'histoire non plus, mais voilà, viendrait le plat, le pad thaï, qui veut dire vraiment des nouilles sautées façon thaï, façon thaïlandaise. Donc, et ça répond en fait à deux. Donc, il y a cette volonté de créer une identité nationale, donc de créer un plat. Ça, on est plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au niveau économique, en fait, période de récession. La Thaïlande a besoin d'argent, et puis aussi sous la pression des Américains et des Britanniques, la Thaïlande exporte en fait du riz. C'est un peu ce que la Thaïlande est redevable en un sens, finalement, de s'être alliée avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ok.
Donc voilà, la Thaïlande exporte de plus en plus de riz, mais bon, il faut quand même et c'est pas un problème, la Thaïlande a du riz. Mais elle doit nourrir sa population aussi.
Oui, parce qu'elle exporte son meilleur riz, en fait, c'est ça ? Ils exportent le riz de qualité et ils leur gardent presque le mauvais riz, entre guillemets ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils exportent majoritairement vraiment beaucoup de riz pour avoir de l'argent. En fait, ils en exportent plus que ce qu'ils devraient garder pour leur population. Donc, pour cela, il faut inciter en fait, les gens à manger autre chose que du riz, d'où les nouilles. Et donc, en prenant ces recettes, alors certains remontent le pad thaï au royaume d'Ayutthaya en disant que c'est des influences vietnamiennes, d'autres c'est influences chinoises, parce que les nouilles à la base c'est plutôt, c'est pas tellement thaï à cette époque-là. Et donc, voilà, il y a une recette un peu qui est créée, qui est imprimée et qui est diffusée un peu partout. Et vraiment à inciter les gens à à cuisiner ce plat-là, en fait.
C'est comme ça qu'ils arrivent à faire croire ou comprendre aux gens qu'il y a un nouveau plan national qui vient d'arriver. Et parce que moi, je me demande, c'est intriguant, mais comment ils arrivent à ce que les gens se disent « Ah oui, ce plat qu'on ne connaissait pas vraiment avant est en fait un plan national et c'est un truc qu'on a toujours fait. » Comment ça se passe, ce truc-là ?
C'est un peu flou, mais en même temps, c'est dans la démarche de communication du gouvernement à l'époque. Mmh. Donc, il faut savoir, on change le nom d'un pays, ça passe. Pour l'habillement, pareil, ça change aussi. On essaye de plus en plus d'être un peu ce qu'on appelle occidentalisé. La langue, c'est vraiment le thaïlandais de Bangkok qui est imposé et qui devient la langue nationale, alors qu'il y avait encore tous ces dialectes un peu partout. Donc, voilà. En fait, il y a plusieurs choses qui passent et ça se met un peu au fur et à mesure. Il y a évidemment le général Pibun qui a une intervention radiophonique, je pense que c'est hebdomadaire à l'époque. Mmh. Et donc, on est dans un régime de propagande et le pad thaï rentre dans cette campagne de communication.
Et c'est un package, en fait. Il y a à la fois l'habillement, la langue, le pays, et puis aussi les pad thaï. Donc, en fait, tout est comme une grande révolution, entre guillemets, dans la vie des gens.
Et même la population, je pense qu'il y a quelque chose qui attend ça, de créer, de sentir une identité. Parce que si on regarde au niveau de la Thaïlande, on n'a jamais été colonisé en Asie du Sud-Est. Elle est entourée autour de donc, y a la Birmanie, le Laos, le Cambodge, la Malaisie. Donc, elle est coincée entre, d'une part, le royaume britannique et la France. Donc, il y a aussi cette fierté-là, il y a ce sentiment, cette exaltation et ce pays qui veut s'imposer aussi sur une scène internationale.
Oui, c'est presque un mécanisme de survie dans une région qui a été largement colonisée par tous les pays européens.
Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une survie, mais c'est, parce que c'est aussi une fierté. Mmh. Et voilà, c'est ce... oui, on se crée ce sentiment, ce nationalisme. Mais le général Pibboun, si on regarde vraiment son idéologie, il est très proche du nationalisme italien. Mmh. Il a cette volonté de créer une grande nation et une nation qui a une crédibilité sur la scène internationale.
Et vous disiez qu'il y a eu la situation politique en Thaïlande, elle est quand même changeante. Il y a eu 18 coups d'État, c'est ça que vous disiez, depuis le général Pibboun. Est-ce que depuis, personne n'a jamais voulu remettre en question les pas de Thaï ou essayer de les supprimer, interdire ou changer le plan national?
Non. Ça reviendrait un peu presque quand même de dire qu'on va changer l'hymne national. Mm-hmm. Parce que l'hymne national a été écrit à cette époque-là, par exemple.
Et la recette est toujours la même, quelle que soit la région de Thaïlande, où il a quand même réussi à... Enfin, les Thaïlandais ont quand même réussi à y intégrer quelques particularités régionales.
Alors, en fait, il y a les aliments de base qui sont un peu tous les mêmes. Donc, on retrouve ces nouilles, le soja, les crevettes séchées, du tofu. Mais après, en fait, c'est un peu chaque vendeur ou chaque cuisinier qui va l'adapter. Donc, on peut en retrouver des plus sucrés, d'autres avec une sauce plus brune, d'autres sauce plus rouge. Certains ne vont pas utiliser des crevettes séchées. Il y en a qui le font en rajoutant du poulet, d'autres qui rajoutent des scampis. Donc, on peut trouver finalement autant d'adaptations du pad thai que de cuisiniers. On trouve même à Bangkok, il y a même un endroit qui fait du pad thai au foie gras.
Et comment vous expliqueriez que c'est un plat qui s'exporte aussi bien? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le plat que tous les gens ont en tête hors de Thaïlande quand il faut citer un plat thaïlandais.
Ouais, déjà le nom.
Mmh, ouais, c'est vrai.
Nouilles sautées façon thaïlandaise, ça parle de lui-même.
C'est vrai.
La simplicité finalement de ce plat qui se fait un peu à la minute, qui fait vraiment en quelques minutes on a son plat qui est prêt. Donc je pense que c'est ça, et puis c'est finalement une preuve du succès de la campagne de communication de Pibboun.
C'est vrai, oui.
Une preuve du premier ministre thaïlandais de 1938 à 1944 en fait.
Et est-ce que vous diriez que c'est un plat qui représente bien la Thaïlande?
Alors, à niveau personnel, je ne trouve pas spécialement. Moi, j'associerais plutôt la cuisine thaïlandaise avec les currys.
Oui.
Soit le curry vert ou alors la soupe, ça s'appelle tom yam. Vraiment, c'est épicé, un peu aigre. Et en fait, surtout que le pad thaï n'est pas épicé. Alors que la cuisine thaï est généralement très épicée. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour l'épicé.
Ok.
Voire le même très assez piquant. Donc j'associe plutôt avec ça.
Merci à Catherine Vanesse d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Vous pouvez retrouver le magazine Latitude sur leur site si vous êtes curieux, on le met en description de l'épisode. Et encore merci Alexandre, que vous pouvez retrouver chez Lao Siam à Belleville. Allez goûter les pâtes thaï, mais goûter aussi les moules par exemple et plein de trucs un peu inhabituels. En fait, je me dis profiter d'être entre potes, par exemple, pourquoi pas d'ailleurs chez Lao Siam ou ailleurs, pour tenter de prendre un plat parmi tous les plats que vous allez prendre, un plat que vous n'avez jamais pris, pour un peu forcer la découverte. Enfin bref, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. On vous met toutes les adresses dans la description et aussi sur notre carte Mapster. On prolongera la discussion sur nos réseaux sociaux si vous voulez, Twitter @bouffonne et Instagram avec le même login. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes que j'anime moi, c'est-à-dire Guillaume Malissen. Cet épisode a été enregistré par Ashley Tola, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Production et coordination, c'est Laura Cuissard. Monté et mixé par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique. N'hésitez pas à parler de Bouffon autour de vous pour le faire découvrir au maximum de gens. Et pourquoi pas, si vous avez le temps, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, on adore vous lire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Surtout, à la semaine prochaine. Salut !